On va lire ensemble, vous pouvez vous lever, on va lire quelques textes rapidement ensemble. Le premier dans Actes 1, 9 à 14. Ce matin, tantôt, Pasteur Jean parlait de. Il avait envie de lire le psaume 80 au complet. Moi, il me semble que j'aurais eu envie de lire le livre d'Actes des Apôtres au complet. Mais là, je me suis retenu. On va en garder une partie pour une autre fois. Donc, Actes 1, 9 à 14. C'est Jésus ici. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. J'aimerais qu'on répète ensemble le verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Un autre texte dans Actes 2, les versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Voyons, pardon. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et un autre texte dans Marc 2, les versets 18 et 20, 18 à 20. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, et ils vinrent dire à Jésus: Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront, et nous sommes dans ces jours aujourd'hui, où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de la prédication de ce matin va être « Où es-tu, Église d'Actes des Apôtres? » Où es-tu, Église d'Actes des Apôtres? Dans le contexte que nous sommes aujourd'hui, qu'on vient juste de passer la Pâque, les disciples ont passé à travers une montagne russe d'émotions. Jésus, qui pour eux, pour certains, avait compris que Jésus devait régner tout de suite sur place et les délivrer de leurs ennemis sur terre. Mais ce Jésus est mort. Ce qui a donné 3 jours d'incompréhension de la part de certains disciples qui n'avaient pas compris les enseignements de Jésus, certaines incompréhensions de toute cette situation-là. Et si on se met à la place des disciples un instant, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus, qui devait devenir roi, et finalement, Jésus meurt. Ils devaient se poser plusieurs questions. Est-ce que Jésus peut-être n'était pas celui qu'on pensait? Si le peuple a tué Jésus, qu'est-ce qui va arriver avec nous? Mais le troisième jour, heureusement, Jésus est ressuscité. Il s'est montré à plusieurs occasions à ses disciples et plusieurs autres personnes. Quel soulagement ça a dû être pour les disciples. Mais quelques jours plus tard, Jésus est enlevé au ciel devant leurs yeux, et c'est là que l'Église d'Actes des Apôtres commence. Et j'avais à cœur ce matin qu'on prenne comme exemple l'Église d'Actes des Apôtres pour 2 points en particulier qui sont la prière et l'unité, mais particulièrement, en fait, l'unité dans la prière, parce que on peut prier chacun de notre côté, mais Dieu nous appelle à avoir une unité dans la prière. Ce que j'avais à cœur pour notre Église ce matin, c'est de regarder à l'Église d'Actes des Apôtres et en particulier de chercher Dieu, comme l'Église d'Actes des Apôtres cherchait Dieu de tout son cœur. Alors qu'on vient de célébrer la Pâque, qui est pour nous un sujet de réjouissance. Est-ce qu'il y en a qui sont heureux de la Pâque? On doit aussi se rappeler ce qui s'est passé suite à la Pâque. Après la résurrection de Jésus, entre l'ascension de Jésus et le jour de la Pentecôte, il y a une étape très importante, nécessaire à la vie de l'Église à cette époque. Et cette étape, c'est que l'Église s'unissait d'un commun accord dans la prière. Ils persévéraient ensemble dans la prière. Et on a besoin encore, comme Église aujourd'hui, d'être présents, de persévérer ensemble dans la prière. Et le jour même de la Pentecôte, il est dit dans Actes 2, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte est arrivé parce qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il y a une puissance pour l'Église aujourd'hui encore d'être réunis ensemble dans la prière. Mais le croyez-vous?
Amen.
Amen. L'ascension de Jésus-Christ n'est pas la fin de la Bible. La Bible ne s'arrête pas à l'ascension de Jésus-Christ. C'est le commencement de l'Église de Dieu. C'est le commencement de ce que nous avons à faire, nous aussi, aujourd'hui, en tant que chrétiens. L'après-Jésus n'est pas d'attendre simplement son retour. Oui, Jésus va revenir certainement, et j'y crois, et j'espère que vous le croyez aussi. Mais d'ici à son retour, on a quelque chose à faire. Et pour faire ce qu'on a à faire, on a besoin de prier pour être rempli de Dieu, pour être rempli du Saint-Esprit, pour faire tout ce qu'on a à faire. Jésus avait dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Au moment où Jésus dit ces choses, les disciples ne savent pas encore de quelle façon le Saint-Esprit va se manifester. Ils ne savent pas encore que c'est par les langues que le Saint-Esprit va se manifester, mais les disciples cherchaient Dieu avec simplicité. Ils cherchaient, ils avaient soif de Dieu, ils obéissaient au commandement de Jésus, ils restaient là. Ils savaient simplement que Jésus avait dit « une puissance survenant sur vous ». Et les disciples attendaient ce moment. Les disciples n'avaient pas d'idée préconçue de ce qui allait se passer au jour de la Pentecôte. Ils cherchaient Dieu avec simplicité de cœur. Ils persévéraient ensemble dans la prière. Et ce que j'ai à cœur pour nous, aux églises d'aujourd'hui, c'est de revenir à ce cœur simple, une église qui cherche Dieu simplement et de tout son cœur. Comment Dieu veut agir à travers nous aujourd'hui? Probablement pas de la même façon qu'il l'a fait à travers l'église d'Actes des Apôtres, mais je sais que Dieu veut agir à travers notre église aujourd'hui. Je crois que si comme Église, on cherche réellement Dieu, si on s'unit réellement dans la prière, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est encore disponible pour nous aujourd'hui. De quelle façon il voudra se manifester, ce n'est pas à nous d'en faire des plans. Notre rôle à nous, c'est de chercher Dieu de tout notre cœur. Mais si on se dispose complètement à Dieu, il peut agir à travers nous comme il le fait à travers l'Église d'Actes des Apôtres. Amen. Jérémie 29, le verset 13 nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Si vous me cherchez de tout votre cœur. On a une belle promesse ici, mais qui vient avec une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce que j'ai à cœur pour notre Église et pour l'Église en général et pour ma propre vie à moi, c'est d'oublier un instant nos blessures de cette vie, nos besoins de cette vie et de chercher Dieu de tout notre cœur pour qu'il se manifeste en nous avec puissance, parce que Dieu veut se manifester en nous avec puissance encore aujourd'hui. Dans l'objectif qu'on soit une épouse, une église prête au retour de Jésus, dans le but qu'on soit une église unie, et dans le but que le plus grand nombre soit sauvé au retour de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ va revenir certainement, certainement, et le cœur de Dieu, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Que la patience de Dieu envers l'homme, envers nous, ait pour résultat qu'un grand nombre soit sauvé. Que la patience de Dieu envers nous ait pour fruit une Église unie. Nous qui sommes l'Église ici, que la patience de Dieu envers nous nous fasse de nous une Église unie. J'ai pas envie que Dieu ait à regretter d'avoir été patient envers moi. Les épreuves de cette vie peuvent être utilisées par l'ennemi pour détourner notre regard des choses essentielles. On doit continuer de prier pour ça, on doit continuer de prier pour nos besoins, mais ça ne doit pas nous empêcher de prier pour les choses qui sont encore plus essentielles que nos besoins. Paul souhaitait que les chardes lui soient enlevées, il priait pour que les chardes lui soient enlevées, mais qu'elles lui soient enlevées ou non, sa priorité, c'était la prédication de la parole de Jésus-Christ, sa priorité, c'était la propagation de l'Évangile de Jésus-Christ. Et que ce soit ma prière, c'est que ce soit notre priorité à nous aussi aujourd'hui. Que l'Évangile de Jésus-Christ soit la priorité de nos vies. Il y a des blessures et malheureusement, il va continuer d'y avoir des blessures dans nos vies. Mais que rien ne nous empêche d'être l'Église qu'on doit être, que rien ne nous empêche de partager l'Évangile de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans Matthieu 6, 33 et 34, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si on pouvait simplement comprendre ces paroles que Dieu, que Jésus lui-même a prononcées, si on comprenait comment Jésus nous dit de s'inquiéter de rien. Comme une église unie, ma prière, frères et sœurs, c'est que nous revenions à ces paroles de Jésus qui nous assurent que si on cherche Dieu premièrement, les choses nécessaires au quotidien nous sont promises, nous sont acquises si on cherche Dieu de tout notre cœur. Si nous sommes l'Église que Dieu attend de nous, on n'a pas à s'inquiéter de ces choses du quotidien. Dieu sait ce qu'il en réserve pour notre Église et pour chacun de nous, mais on a besoin, frères et sœurs, de prier. Pourquoi exactement prier? À cause des temps difficiles dans lesquels nous sommes aujourd'hui, peut-être. Prier à cause que Jésus revient bientôt, on doit se préparer davantage, peut-être aussi. Prier parce qu'il y a une grande moisson d'âmes disponible et qu'on a besoin d'être rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, peut-être. Mais ce que Dieu dépose dans mon cœur, c'est qu'on s'unisse dans la prière comme Église, ensemble, qu'on persévère ensemble dans la prière, parce que comme Église, je crois qu'on est dans une étape importante de la vie de l'Église. Ce que j'ai à cœur pour ce matin n'est pas de prier pour nos besoins, mais plutôt de prier pour chercher Dieu, parce que je crois que Dieu veut faire quelque chose avec nous ici à l'Assomption, Dieu veut faire quelque chose chacun aussi dans nos villes, là où Dieu nous a placés, et je sens que Dieu a quelque chose à faire particulièrement en nous dans les prochains temps. Mais pour tout ça, on a besoin de prier, on a besoin d'être rempli de Dieu, besoin d'être rempli du Saint-Esprit, on a besoin d'être unis ensemble dans la prière. Parce que dans tout ce qu'on va faire, on a besoin d'être accompagné du Saint-Esprit. On peut faire plein de choses par nos propres forces, mais si Dieu n'est pas avec nous, ces choses-là ne servent à rien. L'Église d'Actes des Apôtres est une Église qui a su mourir à elle-même pour se consacrer totalement à Dieu. L'Église d'Actes des Apôtres s'est donnée complètement et ce qui les a permis d'avoir un réel impact dans leur génération, c'est qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, comme nous dit la parole. On peut faire toutes choses par nos propres forces, comme j'ai dit, mais ce qui fait la différence, c'est être rempli du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu dans ce qu'on fait. Et on a besoin, comme Église, ensemble, de prier ensemble, pour que si on va à gauche comme Église, Dieu est avec nous. Si on va à droite comme Église, Dieu est avec nous. Mais partout là où on va, Dieu est avec nous. Il y a une réelle puissance lorsque Dieu est avec nous, au point où les Juifs de l'époque en autorité ont dû se résigner à laisser aller les disciples, parce qu'ils savaient que si Dieu est dans l'affaire, ils vont rien pouvoir faire pour les arrêter. Dans Actes 5, les versets 33 à 42, on va lire. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir, il voulait faire mourir les apôtres. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes, de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Théudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien, parce que Dieu n'était pas dans cette affaire. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti, il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés, parce que Dieu n'était pas dans cette affaire. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas la chance, le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Ils les ont lâchés à partir de ce moment. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient ensemble d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que cette œuvre venait de Dieu, parce qu'on en parle encore aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard. La puissance de cette œuvre est encore disponible pour nous aujourd'hui. Le croyez-vous?
Amen.
2 Timothée 2, les versets 1 à 10, on va lire ensemble. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Je vais insister sur quelques points à travers ce verset. Premièrement, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlés. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent plaire à Dieu?
Oui.
Qu'ils ne s'embarrassent pas des affaires de la vie. Il y a des choses inutiles, on va dire les vraies affaires, il y a des choses inutiles dans nos vies actuellement qu'on doit se débarrasser pour laisser la place à Dieu dans nos vies encore plus, pour laisser plus de place dans nos vies à la prière, pour être réellement l'Église d'Actes des Apôtres. Éphésiens 5, 15 à 21 nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonscription, non comme insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit. C'est à nous qu'il parle encore aujourd'hui ici. » Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pour nous aider à persévérer dans la prière, il est important de ne pas s'embarrasser des choses de cette vie. Il dit dans ce texte, rachetez le temps, et c'est vrai encore aujourd'hui, rachetez le temps car les temps sont mauvais. On ne peut pas changer les temps passés, mais on peut aujourd'hui s'unir comme Église dans la prière pour changer les temps à venir, dans le sens que comme Dieu a changé nos vies en se révélant à nous, Dieu peut encore changer des vies en se révélant à eux, mais pour ça, on a besoin de laisser Dieu travailler en nous, si on veut vraiment qu'un grand nombre soit sauvé. Suite à la prédication de Pierre dans Actes 2, il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes en un seul jour. » En un seul jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Je veux voir encore aujourd'hui des choses comme ça, et je crois que Dieu veut agir comme ça encore aujourd'hui dans notre Église, si on revient à l'Église d'Actes des Apôtres. Deuxième chose que je retiens du texte de ce que Paul dit à Timothée, c'est « Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Je ne sais pas pour vous, mais il y a certaines choses, certains fardeaux plus faciles à porter quand je pense des fois à mes frères et sœurs en Christ et aux âmes qu'il y a à aller chercher pour Jésus. Que ce soit des épreuves ou des calomnies, que Dieu nous renouvelle nos forces à supporter ces choses et qu'on se souvienne qu'on n'est pas seul. On peut voir de tout supporter lorsqu'il s'agit d'évangélisation, c'est-à-dire que de ne pas se laisser abattre par les persécutions, en ayant à cœur que les gens soient sauvés, en ayant un fort désir dans nos cœurs que les gens soient sauvés. On peut aussi tout supporter dans le sens que parfois, je ne sais pas si je suis seul, mais dans certaines phases de découragement, dans certaines épreuves, je dois faire attention que mon découragement ne m'empêche pas d'être une bénédiction pour l'Église, ne m'empêche pas de mettre en pratique les dons que Dieu nous donne. Mais quand je pense aux choses difficiles que vous vivez, ça m'aide des fois à enlever les yeux sur moi-même et regarder qu'il n'y a pas juste moi dans cette situation, et ça m'aide à garder les yeux sur Jésus. Dieu nous donne des dons pour l'édification du corps de Christ, mais il ne faut pas que l'épreuve nous écrase au point qu'on ne soit plus en bénédiction pour l'Église. Il faut être capable de se supporter aussi les uns les autres. Si on veut être capable de persévérer dans la prière, on doit passer par-dessus les petits bobos. On doit être capable de passer par-dessus certaines choses pour s'aider à se supporter les uns les autres et persévérer ensemble dans la prière. La troisième chose que je retiens de ce que Paul dit à Timothée, c'est « Selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Dans tout ce qu'on peut vivre, quand on serait même lié comme Paul l'a été, la parole de Dieu ne sera jamais liée. Les lois peuvent passer même ici au Canada pour mettre des bâtons dans les roues des chrétiens, mais la parole de Dieu ne sera jamais complètement liée. Et on doit nous-mêmes agir de façon à ne pas lier la parole de Dieu. Chaque fois qu'on se tait, qu'on a une occasion d'évangéliser, chaque fois qu'on n'ouvre pas la bouche pour le Seigneur, on lie nous-mêmes la parole de Dieu. Les paroles de Paul et les souffrances de Paul devraient être pour nous un encouragement à persévérer dans l'évangélisation. Chacun là où Dieu nous a placés, on a quelque chose à faire dans l'objectif de répondre à l'appel de Jésus qui est de faire de toutes les nations des disciples. Et cet appel-là est encore un appel pour nous aujourd'hui. Dieu nous dit encore à nous, Jésus nous dit encore à nous, allez et faites de toutes les nations des disciples. Cet appel-là n'a pas changé. Que Dieu nous aide à ouvrir nos yeux spirituels pour voir tout ce qu'il y a à faire pour l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Une autre chose que j'avais à cœur pour nous, d'aider à prier, c'est que trop souvent on essaie de rationaliser la foi. Je ne sais pas si je suis le seul à être comme ça. Mais on essaie des fois de rationaliser l'Évangile pour que ça fitte avec nos pensées, que ça fitte avec nos perspectives. Mais l'Évangile n'est pas intellectuel, C'est une puissance. L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu n'est pas intellectuelle. Ce n'est pas intellectuel de croire que Dieu est venu sur terre sous la forme d'un homme, mais pourtant il l'a fait par la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas intellectuel de croire que Jésus est ressuscité, mais pourtant Dieu l'a ressuscité des morts. Et on a la preuve parce qu'il s'est monté à une centaine de personnes après sa résurrection. Et non seulement il est ressuscité, mais par sa résurrection, il nous donne la promesse que sa résurrection va devenir notre résurrection. Cette résurrection de Jésus est une puissance pour notre salut. Cette résurrection de Jésus, est une puissance pour notre vie éternelle. Et Jésus a dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le but de cette puissance, il y a une puissance de Dieu, et le but de cette puissance, c'est « Vous serez mes témoins ». Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est encore l'appel que Dieu a pour nous aujourd'hui. La puissance à laquelle Dieu veut nous remplir, c'est pour que nous soyons ses témoins encore aujourd'hui. 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 31 nous dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que grec. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. L'Évangile est une puissance. 1 Corinthiens 2, les versets 1 à 4 nous dit, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » L'Évangile que nous prêchons est une puissance, c'est la puissance de Dieu. Romains 1, 16 et 17 nous dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » La foi n'est pas pour les intellectuels. La foi est une puissance pour notre salut aujourd'hui. En arrière de tout don, en arrière de tout miracle, en arrière de toute puissance de Dieu, la motivation doit être l'amour et le salut des âmes pour Jésus-Christ. Le plus beau miracle pour moi, au jour de la Pentecôte, c'est pas que tout le monde ait parlé en langue. Oui, c'est extraordinaire que tout le monde ait parlé en langue. Mais le plus beau pour moi dans ce texte, c'est qu'une multitude a été sauvée. Et Dieu veut le faire encore à travers nous aujourd'hui. Et je crois fermement que si on se dispose comme Église complètement à Dieu, il peut faire à travers nous aujourd'hui des choses aussi extraordinaires qu'au jour de la Pentecôte, dans le but que des âmes soient sauvées. Il ne fera peut-être pas de la même façon, mais si on se dispose à Dieu, Dieu veut agir pour que des âmes soient sauvées encore aujourd'hui. Je crois que Dieu veut manifester sa puissance encore aujourd'hui à travers son Église, mais pour ça, on a besoin ensemble de persévérer dans la prière. Mais pour que ces choses arrivent, on doit premièrement y croire. Est-ce que vous y croyez? Après y avoir cru, on doit le désirer. Est-ce que vous le désirez? Et si on le désire vraiment, il est nécessaire de chercher Dieu de tout notre cœur comme Église, tous ensemble dans la prière. Dans le livre des Juges, quelque chose qu'on remarque, c'est que dans ce livre, chaque génération vit son désespoir, son oppression, ses problématiques, et ensuite sa délivrance de la part de Dieu quand elle se tourne vers lui. Et ensuite, c'est toujours à recommencer, c'est toujours ce même cycle qui est à recommencer. Il est écrit « Où sont les prodiges que nos pères nous racontent? » Ce qui s'est passé dans l'Église suite à l'ascension de Jésus-Christ est encore disponible pour nous aujourd'hui, encore accessible pour nous aujourd'hui, mais c'est à notre tour maintenant, comme c'était à chaque génération dans le livre des Juges, à chaque génération de se tourner vers Dieu, c'est à notre tour maintenant, à notre génération maintenant de persévérer dans la prière, de se tourner vers Dieu, de persévérer dans l'enseignement, c'est à notre tour aujourd'hui, à notre génération maintenant de chercher Dieu de tout notre cœur. Et l'Église d'aujourd'hui a besoin de croire à l'efficacité de la prière. La prière est encore efficace aujourd'hui. Amen. C'est à notre tour réellement de chercher Dieu comme Église tous ensemble. Juges 2, les versets 10 et 11 nous dit « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, comme je disais tantôt, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » Donc, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Le verset 10, c'est un peu ce que je ressens pour notre Église, dans le sens que, un peu comme ce verset, peut-être que Dieu a agi à travers des personnes qui ne sont plus de cette Église, à travers des personnes qui ne sont plus parmi nous, malheureusement. Dieu veut agir à travers nous, comme il le fait dans le temps d'Actes des Apôtres. Il y a cette génération qui est passée peut-être, mais on a besoin aujourd'hui, nous, de chercher Dieu de tout notre cœur pour que notre génération d'aujourd'hui, notre Église d'aujourd'hui connaisse Dieu personnellement. Que certains peut-être ont entendu parler des merveilles de Dieu, mais qui maintenant ont besoin de connaître leur Dieu personnellement. Avec nos enfants qui grandissent, avec les nouveaux qui s'ajoutent à l'Église, on a besoin comme Église de chercher Dieu ensemble. Si on désire que Dieu se manifeste dans notre génération, dans notre Église, on a besoin de chercher Dieu ensemble. Dans Acte 2, les disciples persévéraient dans la fraction du pain, dans la prière, dans l'enseignement, et c'est exactement ce que nous avons besoin aujourd'hui. Dans Juges 2, au contraire, le peuple persévérait dans la mauvaise conduite et dans l'endurcissement, mais ils ont subi les conséquences de leur endurcissement. Et ma prière aujourd'hui, mon souhait pour l'Église d'aujourd'hui, c'est qu'on ne persévère pas dans l'endurcissement, mais qu'on persévère au contraire dans la fraction du pain, dans l'enseignement, dans la prière, comme une Église unie aujourd'hui. Je rêve de voir une Église qui persévère ensemble dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la soif de Dieu, dans la recherche de Dieu. Je ne dis pas qu'on doit être les uns chez les autres constamment. Le rythme de vie d'aujourd'hui va extrêmement vite. On a plusieurs obligations, mais on doit commencer quelque part. Par plus de participation aux réunions de prière le mercredi? Oui, possiblement. En appelant de temps en temps nos frères et sœurs pour s'informer de leur situation et pour prier avec eux? Oui, possiblement. Pour partager plus de moments d'agapé comme on l'a eu la semaine dernière? Oui, certainement. Mais on a besoin de trouver un moment ensemble, comme Église, entre frères et sœurs, pour chercher Dieu dans la prière, pour être une Église unie, pour être l'Église d'Actes des Apôtres. J'ai souvent entendu parler d'un réveil spirituel qu'il y aurait eu à la fin des années 1900. Mais notre génération aujourd'hui a besoin de son propre réveil spirituel. Et ça doit passer par des chrétiens consacrés de la maison, mais des chrétiens qui prient aussi ensemble en tant qu'Église. Est-ce que quelqu'un veut être l'Église présentée par Actes des Apôtres? Si on veut réellement être l'Église que Dieu attend, ça commence aujourd'hui. Quelqu'un disait « Aujourd'hui est le jour de Dieu et demain est le jour de Satan ». Pas qu'un jour appartienne à Satan, loin de là. Tous les jours appartiennent à Dieu. Mais si l'ennemi est capable de toujours nous faire repousser au lendemain nos bonnes intentions, nos bonnes résolutions, il a gagné le combat. OK, à partir de demain, je vais faire ça. Puis là, demain arrive la fin de la journée, puis finalement, je vais le faire demain, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Puis encore demain. Tu vas appeler un frère pour prier. Appelle-le tout de suite. Appelle-le aujourd'hui, pas demain. Prie avec lui. Comme Donald disait, quand il y avait un sujet de prière qui venait, on priera pour ça. Non, pas on va prier. Prions tout de suite. Des fois, comme on dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est important, quand on a quelque chose à cœur, de le faire tout de suite. Cette prédication est aussi le désir pour ma vie personnelle. J'avais à cœur que, de la même manière que les apôtres étaient réunis dans la prière suite à l'ascension de Jésus, l'Église globale est à un moment de son histoire où il est important de s'unir ensemble dans la prière. Je crois que Dieu a quelque chose à faire à travers l'Église d'aujourd'hui, dans l'Église et par l'Église pour le salut des hommes. Jésus disait, « Lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Comme Église aujourd'hui, d'ici à ce que Jésus revienne chercher son Église, on a besoin de prier, on a besoin de jeûner. On est dans cette étape aujourd'hui où Jésus n'est plus là, mais Jésus va revenir. On a besoin de jeûner, on a besoin de prier ensemble. On va regarder encore ensemble comment il y a une puissance dans l'unité et dans la prière à travers Actes 4, les versets 23 à 35. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, donne-nous, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils avaient peur, mais à partir de ce moment, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient sans propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Lorsque les disciples étaient ébranlés à cette étape-là de la vie de l'Église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés ensemble dans la prière. Quand les choses sont ébranlées alentour de nous, ce qu'on a besoin de faire comme Église, c'est de se retrouver ensemble dans la prière. Lorsqu'il manquait de force, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se retrouvaient dans la prière. Nous puisons la puissance de Dieu dans la prière. La force qu'on a besoin se trouve dans la prière. Et remarquez encore, ce n'est pas Pierre qui prie seul chez lui. Il est écrit, « Ils élevèrent la voix tous ensemble. » Tous ensemble. Et à partir du verset 32, j'aime beaucoup les mots suivants. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et c'est ma prière pour notre Église, qu'on soit comme Église, qu'un cœur et qu'une âme. Qu'on puisse persévérer ensemble dans la prière, être là les uns et les uns envers les autres, qu'on soit là les uns pour les autres dans la prière pour aider notre frère, pour aider notre sœur là où il en a besoin. La force de l'Église d'Actes des Apôtres, c'était l'unité, l'amour, la prière, le Saint-Esprit. Tout ça dans le but qu'on soit aujourd'hui une Église remplie du Saint-Esprit, qu'on puisse prendre comme exemple l'Église d'Actes des Apôtres, pour qu'on soit des personnes aujourd'hui, une Église aujourd'hui remplie du Saint-Esprit, une Église aujourd'hui unie dans la prière. Dans le but, dans l'objectif, que comme Église on soit unis, mais dans l'objectif aussi que des âmes soient sauvées pour notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 12, 5 nous dit, « Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Lorsque Pierre était dans la prison, où était l'Église encore? Elle était encore dans la prière. Vous connaissez pour la plupart ce texte, mais si Pierre a été délivré de la prison dans laquelle il était, c'est parce que l'Église était dans la prison. Comment Pierre a été délivré? Parce que l'Église... parce que l'Église était dans la prière. L'Église était dans la prière, pardon. Le combat n'était pas avec l'épée pour aller délivrer Pierre. Le combat était dans la prière. Et on a besoin aujourd'hui d'être unis dans la prière les uns pour les autres. De la même manière que Pierre a été délivré de sa prison, il y a des personnes qui aujourd'hui sont dans une sorte de prison spirituelle dans laquelle ils vont être délivrés si comme Église on s'unit dans la prière, si on prend du temps ensemble comme Église pour chercher Dieu. Il y a une force à aller chercher dans la prière comme Église. Une autre chose dont je voudrais parler est qu'on met parfois nos attentes envers des méthodes, envers des processus, au lieu de mettre nos attentes sur Dieu. Comme par exemple, avoir un groupe jeunesse à l'Église. Chose qui serait très bonne, d'ailleurs, si quelqu'un a à cœur nos jeunes et veut prendre nos jeunes en charge, je vous encourage à le faire. Ce serait vraiment une bonne chose. Nos adolescents ont besoin de se retrouver ensemble, eux aussi. S'il y en a un, tant mieux, c'est une bonne chose. J'en ai fait partie moi-même à mon adolescence, et c'est bien. Mais concrètement, combien de personnes de ce temps sont encore attachées à Jésus? Très peu. Qu'est-ce que ça signifie? Je le répète, c'est pas qu'un groupe jeunesse, c'est mauvais. Si quelqu'un a en charge de prendre nos jeunes en charge, si quelqu'un a à cœur de prendre nos jeunes en charge, faites-le. Mais nos enfants ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin de voir leurs parents être l'Église, être réellement l'Église que Dieu attend de nous. Nos enfants et nous-mêmes avons besoin de plus qu'une Église du dimanche, de plus qu'une Église que l'Église de bâtiment. On a besoin d'être réellement le corps de Christ. L'Église qui est là les uns pour les autres dans tous nos besoins. L'Église qui se réunit dans des moments d'agapé. L'Église qui persévère ensemble dans la prière pour répondre aux besoins des autres, pour crier à Dieu ensemble. L'Église qui sait parler des choses importantes qui sont nécessaires pour persévérer dans la foi. L'Église a besoin de plus que des méthodes, de plus que des processus. L'Église a simplement besoin de Dieu. L'Église a simplement besoin d'être réellement l'Église qu'elle doit être. C'est bien un groupe jeunesse, avec un pasteur jeunesse qui les prend en charge. Mais nos enfants ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin de nous voir vivre l'Église, être réellement l'Église que Dieu attend de nous, et que nos enfants soient l'Église avec nous. Nos enfants ne sont pas à part, ils sont notre famille, ils sont nous, c'est notre chair. Ils doivent être l'Église avec nous dès leur jeune âge. Comme j'ai dit, j'ai fait partie d'un groupe jeunesse, j'ai assisté à des conférences jeunesse, mais qu'est-ce que je retiens encore plus que toutes ces choses? Ce que je retiens encore plus que toutes ces choses, c'est de voir mon père prêcher la parole de Dieu parce que Jésus a changé sa vie. Ce que je retiens encore plus de ces choses, c'est voir ma mère prier dans le lieu secret à la maison. Ce que je retiens plus que le groupe jeunesse, c'est d'entendre mon père parler de Jésus dans son travail pour changer des vies. Et j'ai à cœur que comme église ici, on revienne à une église comme celle d'Actes des Apôtres pour qu'on ait réellement l'impact qu'on doit avoir dans là où Dieu nous a placés ici aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est aussi la communion fraternelle qui avait à un moment donné, qui était présente à un moment donné dans la vie de notre Église. Ce que nos enfants ont besoin et nous-mêmes, c'est d'être réellement au quotidien l'Église de Dieu, pas juste le dimanche. Je ne le dirai jamais assez. On a besoin de vivre l'Église, d'être réellement l'Église, d'être réellement le corps de Christ. Est-ce qu'on comprend ce que c'est être le corps de Christ? Quand on vient à l'Église, c'est pas le temps de venir juste pour écouter une prédication puis ensuite donner une note sur 10. Ah, ce matin, 8 sur 10, c'était bien. Ou ah, ce matin, 3 sur 10, ça ne m'a pas vraiment touché. On n'est pas là pour évaluer l'Église, mais pour vivre l'Église. On est ici aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu dans le but de la mettre en pratique, dans le but que des âmes soient sauvées. Que chacun de nous s'exhorte à marcher selon la volonté de Dieu. Dans notre faiblesse, on a besoin d'avoir un frère, une sœur à côté de nous qui nous aide à nous relever quand on est à terre. Que chacun s'exhorte quand on est dans la faiblesse. Mais où es-tu, Église d'Actes des Apôtres? On va relire ensemble Actes 1, 13 et 14. « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » C'était ordinaire de se tenir là. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Il est écrit que la chambre haute était le lieu où il se tenait d'ordinaire. Le lieu de prière était le lieu où il se tenait d'ordinaire. Et que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Je pense que j'ai besoin que tu dises à ton voisin, et que tous, c'est toi, c'est chacun de vous, que tous persévèrent dans la prière. Nous aussi, aujourd'hui, où est-ce qu'on se tient d'ordinaire? Eux, c'était dans la prière. Vous devez admettre qu'on a du chemin à faire aujourd'hui pour ressembler à l'Église d'Actes des Apôtres, mais on doit commencer quelque part. On a besoin encore aujourd'hui de se tenir dans la chambre haute, ensemble, comme Église. On a besoin que ça devienne un endroit où on se tient d'ordinaire, le lieu de prière. Nos vies ont besoin de plus que la prière individuelle, on a besoin de la prière collective. Si on veut être les réels chrétiens, si on veut être vraiment l'Église que Dieu attend de nous. Si on est tous séparés, où est l'Église? Il y a un temps pour prier dans le secret, mais il y a un temps pour prier ensemble, d'un commun accord, pour chercher Dieu ensemble, d'un commun accord, pour persévérer ensemble, d'un commun accord. Dans notre faiblesse, on est facile à arrêter de prier, mais quand l'Église prie ensemble, il y a un encouragement qui est présent les uns pour les autres à persévérer dans la prière, du fait que quand je suis faible, tu es fort, et quand tu es faible, je suis fort. Mais pour ça, on a besoin de persévérer ensemble dans la prière. On a besoin d'être ensemble pour se tirer les uns les autres vers le haut, se tirer les uns les autres vers Jésus, vers Dieu. On a besoin de se tenir ensemble pour s'entretenir par la parole de Dieu. On doit s'entretenir par la parole de Dieu pour s'aider mutuellement à garder nos yeux sur Dieu et s'aider à grandir en maturité comme Église. Dieu nous appelle à atteindre une certaine maturité comme Église, mais pour ça, on a besoin de s'entretenir ensemble par la parole de Dieu. En lisant la Bible, on peut venir à oublier, mais les disciples de l'époque étaient des hommes et des femmes comme vous et moi. Dans leur quotidien, ils vivaient les mêmes épreuves que nous, les mêmes tentations que nous, mais en toute chose, ils s'en remettaient complètement à Dieu. Ce qui faisait leur force, c'est qu'ils étaient unis ensemble et unis à chercher Dieu. Ils étaient tous aussi remplis du Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit est disponible pour nous encore aujourd'hui. C'est tellement facile de se laisser blesser ou atteindre par certaines choses qui nous empêchent d'être réellement l'Église, ou même qui nous poussent des fois à changer d'Église. Mais on doit persévérer à se supporter les uns les autres si on veut être réellement l'Église que Dieu attend de nous. On doit s'aimer les uns les autres pour s'entretenir par des psaumes. On doit s'aimer les uns les autres pour persévérer ensemble dans la prière et l'enseignement. On doit s'aimer les uns les autres pour persévérer dans la communion fraternelle et pour être l'Église que Dieu veut qu'on soit. En conclusion, on va lire ensemble Acte 5, les versets 12 à 14. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Vous savez, l'homme d'aujourd'hui n'est pas bien différent de l'homme d'autrefois. Malheureusement, c'est une réalité encore aujourd'hui. Plusieurs ne s'engagent pas comme ils devraient pour le Seigneur, mais ils trouvent ça beau de loin. Je veux comparer ici deux types de personnes qu'il y a dans le texte. Il y avait plusieurs personnes qui croyaient à la prédication de Jésus, à la prédication des apôtres, et se faisaient baptiser. Mais il y avait aussi, qui dit, plusieurs autres. Il y avait plusieurs autres. Ils louaient hautement les apôtres, mais ils étaient impressionnés par ce qu'ils faisaient, mais ils n'osaient pas se joindre à eux. Ils trouvaient ça beau de loin, mais trop difficile pour s'y consacrer. C'est une phrase que j'ai toujours trouvée triste et qui malheureusement est encore vraie aujourd'hui. Le peuple voyait la prédication de l'œuvre de Jésus-Christ, voyait la puissance qu'il y avait dans l'œuvre de Jésus-Christ, mais il n'osait pas se joindre à eux. Et c'est une réalité parmi les païens, mais aussi une réalité dans l'Église aujourd'hui. De la même manière, aujourd'hui, on entend « Wow, t'as-tu entendu la prédication? T'as-tu vu ce prédicateur? As-tu vu l'onction qu'il y a sur cet homme, cette femme de Dieu? As-tu vu comment Dieu est bon à travers la vie de telle personne? Ou as-tu vu comment cette femme ou cet homme est un homme de prière? » Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Est-ce que tu veux réellement te consacrer à l'œuvre de Dieu ou tu trouves ça juste beau de loin mais trop difficile pour t'y consacrer? J'ai envie de voir, ma prière, c'est de voir une église zélée qui dit « Oui, Seigneur, moi aussi, je veux prendre part à cette église que tu appelles. Je veux être l'église d'Actes des apôtres. » Vous savez, Dieu est patient envers nous bien plus qu'un homme peut l'être. Mais le temps de sa patience va prendre fin un jour. Mais est-ce que l'église est prête? Est-ce que l'église est prête au retour de Jésus? Est-ce que l'église s'est préparée? Et je répète le titre, « Où es-tu, église d'Actes des apôtres? » Chacun ici, on a un rôle à jouer. Chacun ici, on a un rôle à jouer dans l'Église, pour que l'Église soit réellement l'Église d'Actes des apôtres. Est-ce que tu veux continuer de regarder l'Église? Waouh, c'est beau ce qui se fait dans cette Église, Dieu agit, mais continue de regarder ça de loin. Ou tu veux vraiment te décider à y participer, te décider à entrer en prière comme Église ensemble pour chercher Dieu? Essaie pas de trouver des raisons. « Ah, moi, je peux pas à cause de ceci ou je peux pas à cause de ça. » Dieu t'appelle toi tel que tu es, avec tes forces, avec tes faiblesses. Mais Dieu t'appelle toi tel que tu es pour être réellement l'Église de Dieu aujourd'hui. Matthieu 19, 27 à 29 nous dit, « Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les tribus d'Israël. » Et quiconque, c'est nous, à nous ici qui parle, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou ses pères ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. En d'autres mots, pour ceux qui se seront consacrés à l'œuvre de Jésus-Christ, il y a une abondance de bénédictions à venir dans cette vie et surtout la vie éternelle. La vie chrétienne demande des sacrifices, oui, c'est vrai. On l'a dit tantôt, il y a des choses inutiles dans nos vies, mais qu'on aime, dont on doit se débarrasser pour être vraiment l'Église de Dieu aujourd'hui. Mais les sacrifices de cette vie en valent la peine pour les bénédictions de la vie éternelle en Jésus-Christ. Que ce matin, cette prédication puisse être pour chacun de nous un encouragement à persévérer dans la foi, même quand c'est difficile. Et que ce soit un encouragement pour nous aussi à être une Église qui persévère ensemble dans la prière, à être une Église unie ensemble, présente les uns pour les autres. Amen.